ces petites anecdotes. Donc, une première partie de saison 2006-2007 étincelante. On l'a dit, un duo qui marche super bien avec Ilan, une équipe qui fonctionne. Et la surprise, alors là aussi, j'enlève la cape Synthé Inside et je te parle en tant que supporter. Et je pense que c'est le ressenti de bon nombre de supporters stéphanois. Le 31 janvier, tu quittes le club pour Monaco.
Ouais.
On est beaucoup à pas avoir compris. Ça marchait bien, ça fonctionnait super bien. On a été surpris de cette décision. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi ce choix et quelles étaient les raisons de ton départ en pleine saison comme ça?
Alors, les raisons de mon départ, vous savez, moi, en 2006, ça faisait 5 ans que je faisais du football professionnel.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, je n'étais pas passé par un centre de formation. Et donc, pour moi, c'était que du bonheur de faire du foot. Et c'était une passion, c'était que du bonheur. J'arrive dans le football professionnel et voilà ce qui m'arrive. Dans les années 2000, Lyon est l'équipe qui marche le mieux, qui joue la Ligue des Champions, qui est champion chaque saison et qui fait une offre à Saint-Etienne. L'offre, elle est scalée. Aujourd'hui, l'offre, elle est scalée. La rivalité entre Lyon et Saint-Etienne, je peux la comprendre. Les supporters, cette rivalité, je peux la comprendre. Par contre, quand on est dans un bureau et quand on se fait, on va dire, traiter avec tout ce que j'avais fait quand même à Saint-Etienne, on se fait traiter plus que de la merde, ça a été dur.
C'est-à-dire se faire traiter
pour moi, c'est le mot que j'ai sorti à ce moment-là, c'est ce que j'ai ressenti. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est les discussions. J'avais pas le droit de parler. J'avais pas le droit de donner mon ressenti. J'avais rien le droit de faire. C'était tais-toi. Sinon, tu vas jouer en CFA ou sinon tu joues plus ou sinon quoi. Ça n'existe pas, ça. On a le droit de discuter. Vous avez le droit de refuser des choses. Mais on ne peut pas traiter quelqu'un comme ça. Et c'est pour ça que j'en voulais à Roland Romeillet, que je n'ai pas encore eu au téléphone, même si j'ai son numéro et que j'ai ses coordonnées. Mais ça a été vraiment très dur. Alors, j'ai sur le fond, bien sûr, le mot était inexcusable.
Ouais.
Et je pense que c'était un mot beaucoup trop fort par rapport à l'activité, par rapport à moi, par rapport à l'argent qu'on gagne, par rapport à, bien sûr, les privilèges qu'on a.
Ouais.
Mais malgré tout, c'est ce que moi, j'ai ressenti. Et personne n'a pu se mettre à ma place, en fait.
Ouais, c'est ce que tu as ressenti.
Personne n'a pu se mettre à ma place au moment où j'étais dans le bureau en face de Roland.
Ouais. Non, mais c'est clair.
On connaît Roland. Roland, il est gentil. Mais dès que, je ne sais pas, ce matin-là, je ne sais pas s'il a été bien réveillé ou pas. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti et personne ne s'est mis à ma place. Alors oui, j'ai dit des conneries. Oui, et ça, je l'assume. De toute façon, je l'assumerai toute ma vie. Et c'est comme ça. Maintenant, je m'en suis excusé. Je m'en suis voulu aussi parce que quand c'est sorti, tout de suite après, c'est trop tard de toute façon. Quand c'est sorti, ça fait tellement le buzz que le journal, il s'est pressé de le mettre en ligne. Donc voilà, maintenant, ça a été difficile. Parce que pour moi, ça n'a pas été je prends l'offre de Lyon et je vais prolonger à Saint-Etienne. C'était pas ça. Pour moi, je voulais faire la meilleure carrière possible, je voulais aller le plus haut possible. Et Lyon est venu. Mais discutons. Si vous voulez pas que j'aille à Lyon, discutons avec Saint-Etienne. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut organiser quelque chose? Et tout ça, ça s'est pas fait. Et après cette discussion, justement, en plus j'avais mal au genou. On me disait que je faisais semblant, faisait semblant d'être blessé alors que le doc avait pris deux poches de sang dans mon genou parce que j'avais eu j'avais eu quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis finalement, bah, je suis resté 2 semaines pratiquement sans m'entraîner. Je suis parti le dernier jour du mercato. Voilà comment ça s'est fait un petit peu les dessous de ce transfert. Normalement, je devais partir à Lens. Mais finalement, Laurent Banid nous a appelés au dernier moment. Et voilà, j'ai signé à Monaco.
D'accord. Et toi, alors, t'as signé à Monaco. Alors qu'à la base, comme tu l'as dit, c'était Lyon qui était venu au renseignement. Ouais. Toi, à partir du moment où il y avait eu... ce refus, entre guillemets, de la direction de discuter avec toi, c'était plus viable pour toi de jouer pour Saint-Etienne. C'était fini. Quoi qu'il arrive, tu devais partir.
Ouais, quoi qu'il arrive, bah, après les déclarations.
Ouais.
Après la discussion avec Romeyer, enfin, après la discussion avec Romeyer, ça, c'est le premier point. La déclaration, le deuxième point. Et ensuite, c'était mort. C'était mort. Ouais. J'avais même plus envie.
C'est clair.
Pourquoi, okay. Pourquoi mouiller le maillot? Pourquoi donner satisfaction à quelqu'un qui me faisait même plus confiance, on va dire, entre guillemets.
Ouais, ok. Bah, okay, en tout cas, c'est super intéressant d'avoir tous les dessous de ce transfert et de cette période, comment ça s'est fait. Parce que, comme je te l'ai dit, moi, en tant que supporter, et je pense que c'est le cas de bon nombre de supporters stéphanois, on était un peu surpris, on n'a pas compris, hein, pour être honnête, cette décision. Donc, c'est très intéressant d'avoir ces infos-là. Donc, tu rejoins Monaco pour au final rejoindre Lyon un an et demi après,
ouais.
Mercato 2008, il me semble, c'est ça ?
Ouais.
Alors, je vais te poser une question qui en intéressera plus d'un. Nous, en tant que supporters stéphanois, on a toujours peut-être ce côté naïf, hein, de se dire, tiens, les joueurs, quand ils passent à Saint-Etienne, ils ont cet amour du maillot, ils seront imprégnés toute leur vie de cette fièvre verte, si je puis dire. Donc, c'est pour nous, c'est difficilement compréhensible de voir un ancien de nos joueurs jouer pour le club ennemi. Est-ce que toi, quand tu signes à Lyon, tu penses à tout ça, ou est-ce qu'en tant que joueur, quand on est joueur et qu'on signe à Lyon, qu'on a cette logique de carrière, on ne pense pas à ces années vertes, on ne pense pas à cette rivalité, etc.
Bien sûr qu'on y pense. On y pense forcément. Moi, j'ai passé de très très bons moments à Saint-Etienne. On y pense forcément, mais c'est comme tu l'as dit, c'est le boulot. C'est le boulot. Donc, à un moment donné, il faut faire le boulot. C'est pas contre Saint-Etienne, c'est pas contre Lyon. C'est comme ça. C'est le boulot de footballeur. Et il n'y a pas que moi, hein, qui suis passé de Saint-Etienne à Lyon ou de Lyon à Saint-Etienne. Donc,
non, bien sûr.
Ou même en passant par d'autres clubs. Mais oui, on y pense. On y pense, forcément. Okay. Et les retrouvailles au Chaudron, j'en tremblais parce que c'est compliqué. Vous imaginez mentalement comment on doit être fort pour jouer, pour s'entraîner, pour s'échauffer sur le côté, pour rien dire, pour être... voilà, c'est compliqué.
Ouais, j'imagine.
C'est pas facile à vivre. Mais c'est comme ça, c'est la vie d'un footeux.
C'est clair.
Quand on passe du Real au Barça, du Barça au Real, de l'Inter à Milan, c'est comme ça. Pourtant, il y en a plein des joueurs qui le font. Ben, voilà.
Ouais, non, mais je comprends très bien. Après, comme moi, je peux comprendre, tu peux comprendre que nous, ça nous fait mal quand on voit un ancien de nos joueurs aller jouer chez l'ennemi. Mais je comprends tout à fait tes propos et ils sont tout à fait cohérents. Donc, tu as joué à Lyon, on l'a dit. Mais bon, rassure-nous, la meilleure ambiance, elle a Geoffroy Guichard quand même.
Bah ouais, ça n'a rien à voir.
Ouais.
Rien à voir. Ouais. Mais non, mais ça n'a rien à voir. C'est, on ne peut pas comparer. Les deux ambiances, elles sont incomparables.
Ouais.
On ne peut pas comparer les ambiances populaires et les ambiances de ville, on va dire. Entre guillemets, ouais. Urbaines. Ce n'est pas possible.
Ouais, bah c'est à l'image des codes sociaux des deux villes, entre guillemets, les ambiances qui se retrouvent dans les tribunes.
Exactement.
Ouais.
C'est exactement ça. On retrouve ça. On peut retrouver un petit peu à Lens, l'ambiance de Saint-Etienne. Et le Lens-Lille, c'est pareil.
Ouais.
On ne peut pas retrouver la même chose. C'est pas possible.
Ouais, c'est vrai. C'est clair. Donc, pendant tes années lyonnaises, tu as connu un certain Claude Puel,
ouais,
qui est aujourd'hui entraîneur de Saint-Etienne. Donc, nous, ça nous intéresse tout naturellement si voilà, tu peux nous parler du coach, de ses méthodes de management, et si tu penses qu'il a le profil idoine pour mener à bien le projet que Saint-Étienne veut mettre en place, à savoir basé sur la jeunesse et démarrer un nouveau cycle.
Bah, je pense que oui. Parce que oui, il l'a fait à Lille. Il a voulu aller à Lyon, mais ça ne s'est pas fait correctement parce qu'à Lyon, il y avait déjà trop de cadres, trop ouais. de grands joueurs et c'était compliqué. Ensuite, il est parti à Nice, il l'a fait. Très bien marché à Lille. Il est parti ensuite à Southampton, il l'a fait aussi, en Angleterre. Il l'a fait à Leicester aussi, il ne faut pas oublier. Avant ouais. que Leicester reprenne là, leur deuxième, troisième place cette saison, c'est lui qui a bâti un petit peu,
ah bah,
qui a pris les joueurs de la réserve pour les faire monter en pro. Donc à Saint-Étienne, il va faire pareil. Et je pense que Claude, vraiment, il est bon pour ça. Il est bon pour ce travail de fond. Il aime bien ce rôle de manager, justement, où il a cet œil sur la réserve, sur les 19 ans, voilà, sur le centre de formation, pour que justement ces jeunes puissent progresser et atteindre l'équipe première avec, on va dire, toute leur capacité à jouer, en tout cas. Tu vois? Parce qu'on ne peut pas mettre un jeune, on se dit, oh, lui, il est bon, on va le faire jouer. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Lui va arriver à les modeler, à leur faire déjà à trouver son système, à les faire jouer dans son système, et surtout quand il va les mettre, eh ben, ça va marcher. Et on l'a vu cette saison, il a pris des joueurs de la Gambardella qui ont joué et ils ont été très bons.
Ouais, mais c'est c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ce qu'il disait dans une interview accordée à l'équipe. Il disait, voilà, nous, on ne doit pas former des joueurs, des jeunes, pour les faire jouer en réserve, mais pour qu'ils soient prêts pour jouer en équipe première directement.
Bien sûr.
Ouais.
Bah, le rôle, il est là.
Ouais, ouais.
Il faut que les mecs de la formation, c'est ça la méthode Claude Puel. Les mecs qui ont joué à Gambardella il y a 2 ans, qui ont gagné la Gambardella, je trouve que l'attaquant, comment il s'appelle ?
Charles Labie ?
Il est super fort.
Ouais.
Il est super bon. Mais ça fait quoi ? Ça c'est comment on atteint ce niveau-là ? Par la confiance du coach, les entraînements tous les jours, et petit à petit, le mettre dans l'équipe. Au départ, ce n'est pas lui qui jouait. Mais quand il est rentré, il a fait ses armes, il a fait ses rentrées, on l'a vu jouer, on l'a vu démarrer en coupe, puis après il a joué en Coupe de la Ligue. Et puis petit à petit, la confiance est venue, et il a joué, et il est super bon.
Ah bah Charles Laville l'a même fait démarrer lors de son premier match dans le derby directement.
Dans le derby.
Voilà.
Et il a été très bon.
Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est la méthode Claude Puel de ne pas avoir peur de lancer les jeunes et de baser son équipe sur un mix hein, de cadres, bien évidemment, mais voilà, des jeunes prospects, des jeunes potentiels qui va faire grandir. Mais si on peut revenir sur sa méthode de management, on sait qu'il y a plusieurs...
Elle est dure. Hein. Ah, ça voilà. Par contre, elle est dure. Elle est extrêmement dure. Claude Puel, il parle pas beaucoup. Hein.
Bah, c'est ce qui est un peu sorti là, dans la presse durant ces premiers mois de management et en tant que coach à Saint-Étienne.
Ouais.
C'est que on est passé d'un management paternaliste avec
Jean-Louis Gasset, ouais.
Voilà, avec Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps, à quelqu'un de beaucoup plus froid, de beaucoup plus renfermé, qui n'a pas beaucoup parlé, qui a ses idées claires et qui. Et alors c'est pas une critique encore une fois, hein, c'est que on constate et on relate juste les faits d'un homme qui sait où il veut aller, comment il veut arriver à ce chemin. Quitte à se mettre les cadres du vestiaire à dos, on sait qu'il y a plusieurs cadres qui ont donné des interviews et qui ont dit voilà, on a peu ou pas de discussion avec Claude Puel, il s'appuie pas sur nous comme les anciens coachs pouvaient le faire. Est-ce que tu confirmes tout ça un peu, cette management?
Ah, je confirme parce que même à Lyon, c'était très difficile avec Juni, Chris, les cadres un petit peu du vestiaire. Donc oui, Claude Puel, il est très très dur. Il sait où il veut aller, il faut juste se ranger dans la même voie que lui,
c'est ça.
Dans la même route, sur la même route que lui. Après quand c'est comme ça, tout va bien. Mais c'est vrai que dès qu'on déborde un petit peu, avec lui, c'est A, c'est pas A prime. Et c'est comme ça. Et c'est vrai qu'au niveau communication avec les joueurs, c'est pas un grand communicant, hein, Claude Puel. Et ça, c'est son côté un petit peu boulot. Parce que quand tu le connais dans la vie de tous les jours, quand il est en dehors du foot, quand il est en famille ou même quand on fait des matchs, parce que quelquefois on fait des matchs avec le variété avec lui, Mais c'est quelqu'un d'adorable, chambreur, qui te parle, qui est communicant, qui te donne des solutions, qui a envie de t'aider. Mais quand il est dans son boulot, j'ai l'impression qu'il, voilà, c'est un autre homme, c'est quelqu'un d'autre. Et qui est... Alors, je ne sais pas si c'est dommage, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, mais c'est comme ça. Et ça lui réussit quand il, voilà, dans certains clubs, et dans d'autres, ça ne lui réussit pas parce que, dans d'autres clubs, quand on a des cadres, ils aiment bien aussi avoir cette communication. Donc, voilà.
Ah ouais, c'est clair.
C'est assez compliqué de cerner, en tout cas, le personnage Claude Puel.
Ouais. Mais voilà, comme tu l'as dit, ça marche partout où il est passé, plus ou moins.
Ça va marcher avec Saint-Étienne, je pense.
Ben, on l'espère.
Il faut juste que les dirigeants lui fassent confiance. Ouais. Mais ça va marcher. Et ça devrait marcher parce que c'est un club populaire, il y a du monde. Il y a une bonne formation, il y a des gens compétents, donc ça ne peut que marcher.
Ouais. Bah c'est tout le mal qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on espère tous à Saint-Étienne en tout cas. Mais encore une fois, super intéressant d'avoir ton avis sur la question parce qu'on sait que tu l'as côtoyé pendant quelques années dans un certain club de la région Rhône-Alpes. Pour en revenir à des questions un peu plus personnelles,
ouais.
On sait qu'à Lyon, tu as joué en Angleterre, à Portsmouth et à West Ham, ouais. Que tu as joué en Inde, aux États-Unis,
ouais.
Après en Ligue 2 à Créteil, mais ça reste en France. Quel est le championnat qui t'a le plus marqué footballistiquement et le championnat qui t'a le plus marqué, le pays, si je puis dire, qui t'a le plus marqué humainement?
Alors, le championnat, bien sûr, ça va être comme 99% des gens, le championnat anglais, bien sûr. J'y retrouve l'intensité, les supporters, tout ce qu'on bavait devant la télé, ben, ça s'est retrouvé là-bas. J'ai fait une finale de cup qui était extraordinaire devant 100 000 personnes. Je n'avais jamais vu ça, qui chantait tout le match. Franchement, c'était extraordinaire. L'ambiance anglaise, les matchs, l'organisation... les entraînements, voilà, tout change. Le mercredi off qu'on n'a jamais connu, qu'on ne connaît pas en France, voilà, l'intensité qu'on met dans les entraînements, où en France, on a les deux jours compliqués en début de semaine, et puis après, ça se relaxe sur la fin de semaine. Bah, en Angleterre, ça n'existe pas. C'est toujours à fond, tout le temps à fond. Et le championnat qui m'a le plus fait... Je pense que c'est le championnat, je pense que c'était en Inde, où humainement, ça a été très, très dur.
Où tu as joué très, très dur, d'accord. Où tu as joué avec Nico Anelka, d'ailleurs, là-bas.
Ouais, j'ai joué avec Nico Anelka, Selim Benachour, Franz Bertin, et après des Espagnols. Mais sinon, oui, humainement, tu sortais de l'hôtel, c'était de la famine. C'est la famine, les gens dehors, qui étaient les gens pauvres qui dormaient à même le sol. Ça a été très compliqué, alors que nous, on était dans un hôtel pratiquement 6 étoiles. Donc, le contraste, en fait, en Inde, il était impressionnant. Mais le championnat et le tournoi étaient tellement bien organisés que finalement, on s'en rend compte quand on sort de l'hôtel, mais sinon, on ne s'en rend pas compte, parce que c'est trop bien organisé. C'était trop bien organisé, en tout cas.
Ok. Bah, écoute, c'est... C'est important de savoir ça, ça permet peut-être aussi à vous, footballeurs qui jouez là-bas, de vous rendre compte de la chance que.
Exactement.
Le privilège que vous avez eu de.
Ah ouais, parce que moi j'ai fait venir mes enfants et je leur ai dit, regardez les gens, regardez comme ils vivent. Regardez, ils ne mangent pas à leur faim. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Donc vous, quand vous faites quand on fait nos caprices là, de footeux ou quand nos enfants ils font des caprices là, parce qu'ils n'ont pas eu la dernière manette ou le dernier Nintendo, c'est dur.
C'est clair. C'est clair. Fred, on arrive à la fin de cette interview. On voulait te remercier vraiment énormément pour le temps que tu as pris. C'était super intéressant. Près de 40 minutes d'interview où on a pu parler de ta carrière, de tes années vertes, de mieux comprendre certaines décisions et certains choix que tu as pris et qui nous paraissaient un peu sombres, à nous, supporters. Donc franchement, merci beaucoup. Je pense que ça éclairera plus d'un supporter stéphanois. Donc merci beaucoup pour cette interview et on espère te revoir très bientôt.
Bah, merci à vous déjà aussi, parce que bon, c'était pas facile de retracer un petit peu ces années vertes, surtout la fin, parce que moi, ça me reste quand même en travers de la gorge. C'est quand même quelque chose qui, avec un goût d'amertume, un goût d'inachevé. Et voilà, maintenant, j'espère que c'est vrai que les supporters n'ont pas bien compris. J'espère qu'il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont pas bien compris, il y en a avec qui j'ai pu converser aussi, qui l'ont compris. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas compris. Voilà. J'espère en tout cas avoir donné des réponses un peu plus complètes. Et surtout que, bien entendu, moi, mes meilleures années, elles ont toujours été à Saint-Étienne, en France. Et j'ai quand même gagné 2 trophées de meilleur joueur du mois à Saint-Étienne. Et ça n'enlèvera en rien la qualité que j'ai pu mettre et le cœur que j'ai pu mettre, en tout cas, dans cette équipe. Et je me suis fait des amis, j'en ai encore au téléphone. On a créé d'ailleurs un groupe d'anciens Stéphanois, donc on discute tous ensemble. Et c'est ça qui est important, c'est de garder les bons souvenirs et les potes. Et c'est ça, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci encore pour cette petite interview qui a été super intéressante aussi pour moi.
Et bah franchement, plaisir partagé encore une fois.